Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 23 janvier 2023. Avec vous, Eric Manelakiza, voici d'abord le sommaire. Le Burkina demande le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois. Le président français dit attendre des clarifications de Ouagadougou. Au Cameroun, un journaliste porté disparu a été retrouvé mort dimanche. L'opposition et des organisations de défense de la presse dénoncent un assassinat. Au Tchad, Human Rights Watch dénonce les violations des droits humains lors de manifestations du 20 octobre. En Somalie, 6 morts dans l'attaque du bureau du maire de Mogadiscio. Ici aux États-Unis, la bataille pour le droit à l'avortement n'est pas finie, assure le président Biden. Dans un tweet, l'Allemagne est prête à autoriser la Pologne à livrer des chars léopards à l'Ukraine. Chan 2022 en Algérie. Aujourd'hui, vous suivrez la troisième et dernière journée du groupe C. Sonia Élisée sera avec vous pour plus de détails. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a vanté ce vendredi une nouvelle relation économique bénéfique pour l'Afrique et les États-Unis. Nous en parlons dans la page économie, mais d'abord le journal. Le président français Emmanuel Macron a dit ce dimanche attendre des qualifications de la part du Burkina Faso sur une éventuelle demande de départ des troupes françaises stationnées dans le pays dans un délai d'un mois. Abdourahmane Dia.
Évoquant une grande confusion dans les informations qui ont circulé depuis samedi à Ouagadougou, M. Macron a expliqué vouloir attendre que le président de transition, Ibrahim Traoré, puisse s'exprimer. Je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence. Nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse franco-allemande à Paris. Une source proche du gouvernement burkinabé a affirmé samedi que les autorités ont demandé le départ des soldats français dans un bref délai, confirmant des informations de l'agence d'information burkinabé. Mardi, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, avait affirmé devant des étudiants que le combat pour la souveraineté était engagé. La France, ex-puissance coloniale, maintient un contingent de près de 400 forces spéciales dans le pays dans le cadre de sa lutte anti-djihadiste au Sahel. Plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait de la France du Burkina. La dernière a eu lieu vendredi.
Un célèbre journaliste d'une radio émettant à Yaoundé, Martinez Zogo, porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé mort à une quinzaine de kilomètres au nord de Yaoundé. Yakuba Ouedraogo.
Je me suis rendu à Ebogo tôt ce matin où j'ai vu et reconnu le corps de Martinez Zogo. Le substitut du procureur était présent et son épouse était là pour le reconnaître, a déclaré Charlie Chouemou, rédacteur en chef de la radio Amplitude FM où travaillait le journaliste. Le décès a été confirmé à l'AFP par une source policière sous couvert de l'anonymat. La gendarmerie avait été prévenue par un homme qui se rendait au champ et a aperçu son corps, a assuré M. Chouemou, précisant que le cadavre était entré en état de décomposition. Sa dépouille a ensuite été acheminée à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, a précisé la même source. Martinez Zogo, 51 ans, était le directeur général de la radio privée Amplitude FM, basée à Yaoundé, et l'animateur d'une émission quotidienne Embouteillage, diffusée du lundi au vendredi et très suivie dans la capitale camerounaise. Les circonstances de sa disparition mardi demeurent floues et une enquête a été ouverte le même jour. Dans un communiqué, l'ONG Reporters sans frontières affirmait que Martinez Zogo avait été enlevé le 17 janvier aux alentours de 20h devant un commissariat de la périphérie de Yaoundé.
Human Rights Watch dénonce dans un rapport ce lundi des meurtres, des décès en détention, des disparitions forcées, des actes de torture liés à la répression de manifestations par les autorités en octobre. Selon le gouvernement, un total de 621 personnes avaient été arrêtées en N'Djamena et acheminées à Korotoro, une prison de haute sécurité en plein désert à 600 km de la capitale. Des témoins ont affirmé à l'ONG que plusieurs personnes étaient morte lors du trajet jusqu'à la prison en raison de privation de nourriture et d'eau. L'organisation pointe en outre plusieurs cas de disparition forcée des détenus dont on ignore toujours la localisation et dont les membres des familles et les avocats ont demandé en vain des informations. Nouvelle attaque meurtrière visant la capitale somalienne. Au moins 6 civils ont péri hier dimanche dans une attaque des insurgés islamistes Shebab contre le bureau du maire de Mogadiscio, Nanit Talani.
L'attaque a duré 4 heures, selon le porte-parole de la police. Un kamikaze a déclenché une énorme explosion qui a endommagé des bâtiments près du complexe de bureaux, suivi par une fusillade, a déclaré Sadiq Doubiché. Il précise que tous les 6 assaillants ont été tués. 5 pendant la fusillade avec les forces de sécurité et 1 s'est fait exploser. Face à la presse, il a aussi déploré la mort de 6 civils. Tout le personnel du bureau du maire a été secouru, toujours selon la police. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste radical des Shebab, affilié à l'organisation djihadiste Al-Qaïda, au terme d'une semaine marquée par plusieurs attaques meurtrières des insurgés en Somalie. Les Shebab ont soutenu que leurs combattants se sont frayés un chemin à l'intérieur du bâtiment visé après avoir tué les gardes de sécurité. Ces derniers mois, l'armée et les milices claniques locales ont repris des pans entiers de territoire dans le centre du pays dans le cadre d'une opération soutenue par des frappes aériennes américaines et une force de l'Union africaine.
L'ordre des avocats égyptiens a annoncé ce dimanche mettre fin à sa grève entamée 3 jours plus tôt pour dénoncer l'emprisonnement de 6 confrères pour une rixe avec des greffiers au début du mois. Une cour d'appel a néanmoins ordonné hier la libération des 6 avocats et fixé leur verdict au 5 février, ce qui a suscité la levée de la grève. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et plusieurs ministres sont arrivés ce dimanche en Algérie pour une visite officielle avec au programme des réunions avec des hauts responsables du premier exportateur gazier d'Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La bataille pour l'avortement n'est pas finie, a assuré Joe Biden ce dimanche, 50 ans jour pour jour, après un célèbre arrêt de la Cour suprême qui garantissait l'accès à l'IVG partout aux États-Unis, mais qui a été renversé en juin dernier. Abdrahman Dia.
Pour le président américain, les États-Unis devraient célébrer dimanche le 50e anniversaire de Roe v. Wade, la jurisprudence qui, pendant des décennies, a garanti le droit à l'avortement sur tout le territoire américain, a fait savoir le président démocrate dans un tweet. Au lieu de cela, des responsables républicains sont entrés en guerre contre le droit des femmes à prendre elles-mêmes les décisions concernant leur santé, a dénoncé Joe Biden. Il promet de continuer à se battre pour protéger les droits des femmes en matière de reproduction, mais il ne dispose sur ce sujet que de maigres moyens institutionnels. En juin dernier, la Cour suprême a cassé cette jurisprudence en estimant que le droit à l'interruption volontaire de grossesse n'était pas protégé par la Constitution, ce qui a ainsi permis à une vingtaine d'États gouvernés par les républicains d'interdire ou de restreindre sévèrement l'accès à l'avortement.
Toujours ici aux États-Unis, le motif de la fusillade qui a fait 10 victimes samedi soir dans un dancing californien demeurait toujours mystérieux ce lundi au lendemain de la mort de l'auteur présumé après une course et poursuite avec la police. Le président Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux ornant les bâtiments publics. Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont affichés ce dimanche à Paris leur volonté de travailler ensemble au service de la refondation de l'Europe, y compris dans la réponse à apporter au plan massif de subventions à l'industrie américaine sans surmonter toutes leurs divergences, notamment sur la défense européenne. À l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays, les deux dirigeants ont fait assaut de référence à l'amitié et la fraternité franco-allemande, clé de la construction européenne depuis 6 décennies. L'Allemagne est prête à autoriser la Pologne à livrer des chars Léopard à l'Ukraine, qui les réclame avec insistance, a affirmé ce dimanche la chef de la diplomatie allemande, renforçant la pression sur le chancelier Olaf Scholz, toujours réticent à se prononcer sur la question. Si on nous posait la question, nous ne nous opposerions pas à la livraison à Kiev de ces chars de fabrication allemande. Pour l'instant, la question n'a pas été posée par la Pologne, tenue de faire une demande officielle à Berlin. a précisé la ministre interviewée à Paris sur la chaîne française LCI. En bientôt un an d'affrontement, la guerre en Ukraine a fait près de 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe et 100 000 côté ukrainien, sans compter 30 000 civils tués selon des estimations données dimanche par le chef de l'armée norvégienne. Les forces américaines ont fait prisonnier 3 membres de l'organisation État islamique au cours d'un raid mené dans l'est de la Syrie, a annoncé ce dimanche le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, CENTCOM. Parmi les prisonniers se trouve un logisticien et un homme jouant le rôle d'intermédiaire pour l'EI, a-t-il déclaré dans un communiqué.
Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nathalie Barge.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a vanté vendredi une nouvelle relation économique bénéfique pour l'Afrique et les États-Unis. Les États-Unis sont à fond derrière l'Afrique et à fond avec l'Afrique, a déclaré Madame Yellen la semaine dernière, et d'ajouter devant des entrepreneurs, je cite, « Notre engagement n'est pas sujet à marchandage, il n'est pas de façade et il n'est pas à court terme ». Le consulat du Nigeria à Johannesburg s'est plaint auprès du gouvernement sud-africain après que la mairie de la ville a coupé l'électricité de la représentation diplomatique en raison d'arriérés de paiement de 400 000 rands. Le consul général s'est toutefois rendu à la mairie pour reconnaître les arriérés et négocier leur paiement d'ici la fin du mois, selon le fournisseur d'électricité Isaac Mangena. L'Ouganda a délivré la licence pour la construction d'un oléoduc traversant le pays et la Tanzanie pour transporter les hydrocarbures d'Afrique de l'Est aux marchés internationaux. La licence a été attribuée au consortium East African Crude Oil Pipeline, détenu à 62% par Total Energy. Le géant français avait annoncé en février un accord de 10 milliards de dollars avec l'Ouganda, la Tanzanie et une compagnie chinoise comprenant la construction d'un oléoduc de plus de 1400 kilomètres.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée Sonia ce matin. Élisée, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour à tous.
Football à la une, le Chan en Algérie avec la troisième et dernière journée du groupe C.
Oui, un groupe à trois après le forfait du Maroc et le Soudan d'eau au mu a impérativement besoin d'une victoire devant Madagascar. Les Malgaches, leaders du groupe E, n'ont besoin que d'un nul pour rejoindre le Ghana déjà qualifié. Coup d'envoi du match à partir de 19h temps universel.
Hier dimanche, le groupe B a livré ses deux qualifiés, Élisée.
Et ce sera le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les Sénégalais terminent en tête après avoir corrigé la RDC 3-0. Les Ivoiriens, victorieux 3-1 de l'Ouganda, finissent à la deuxième place et affronteront en quart le pays hôte, l'Algérie.
Handball à présent et l'Égypte proche des quarts de finale du mondial masculin.
Tout à fait. Un sans faute pour le champion d'Afrique dans le tour principal. 4 victoires en 4 matchs. Les Égyptiens sont en tête de leur groupe avant d'affronter aujourd'hui le champion du monde, le Danemark. Et par contre, en match de classement, la Tunisie joue l'Algérie et le Maroc affronte la Macédoine.
Et on termine avec le cyclisme. Début aujourd'hui de la Tropicale à Missabongo.
Exactement Eric, une course par étape gabonaise qui retrouve sa place dans le calendrier international après 2 éditions annulées pour cause de coronavirus. Au total, 7 étapes pour une distance de 930 km que vont parcourir 15 équipes venues d'Afrique et d'Europe. Et parmi elles, le Bénin avec 6 coureurs qui seront dirigés par un nouvel entraîneur, le Rwandais Adrien Niyoshuti. Un choix fort qu'explique le président de la fédération Romiad Razoumé.
Nous sommes passés dans les compétitions de 2.1, il nous faut un coach qui a l'expérience de 2.1, qui a l'expérience du vélo à ce niveau-là. C'est pour ça que Team Africa Rising nous a conseillé cet entraîneur rwandais qui vit en Italie et qui devient notre coach national avec des suppléants qui sont Fernand Ganaro, Charles Rancinon et Papouène qui a fait le boulot jusqu'à présent. Papouène qui a vraiment amené l'équipe à ce niveau où nous sommes, et vraiment une grande reconnaissance à lui. Mais avec ce travail, il faudrait qu'on monte sur un autre palier. Et c'est pour cette raison-là que ces quatre coachs-là deviennent les suppléants qui vont aider Adrien Niouchoti à réussir sa mission.
Romuald Razoumé, le président de la Fédération béninoise de cyclisme. La première étape sera courue entre Bitam et Oyem, longue de 122,5 km. Un circuit fermé est prévu à l'entrée de la ville d'Oyem.
Merci Élisée pour les sports. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. De retour avec vous, Eric Manila Kidza, place au dossier du jour. En Ituri, une province de l'est de la RDC, il n'y a pas de répit dans les attaques contre les sites de déplacés. La dernière remonte à jeudi, lorsque des miliciens s'en sont pris au site de Plaine Savo, faisant une dizaine de morts. Une attaque attribuée à des éléments armés de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco. La société civile déplore et interpelle les autorités. Plus de détails avec notre correspondant dans la région, Zanem Netizaidi.
Dans le quartier de Kisanga, non loin de l'hôpital général de référence de Mambasa, à plus de 160 km au sud de Bunia, une cinquantaine de familles ont été accueillies dans une église. Madame Hélène est originaire du village de Mabouloukou, à 27 km à l'est de Mambasa. Elle dit avoir quitté un site de déplacés où elle vivait après une attaque rebelle. Elle se sent plus en sécurité dans cette église, mais son statut de déplacé ne rend pas sa vie plus facile.
Ce sont les difficultés qui nous ont fait fuir. Nous sommes obligés de fuir dans des endroits où personne ne nous connaît. Nous avons abandonné nos biens en désordre. Les difficultés sont la faim, des intrats d'hygiène tels que les savons. Regardez vous-même notre état. Nous souffrons, qu'ils nous viennent en aide.
La société civile d'Elitouri fustige les attaques répétées des sites de déplacés. Elle demande aux autorités et à la mission onisienne d'agir rapidement. Dieudonné Lossa est le coordonnateur de la société civile d'Elitouri.
Chaque fois, les sites des déplacés sont violés, alors que ce sont des sites qui ne pouvaient pas subir des violations massives des droits de l'homme. Ça, c'est 8e attaque sur des sites des déplacés. Et le même site de Plaine Savo venait d'être attaqué pour 2e fois par les mêmes miliciens Codeco, alors que l'État congolais connaît très bien que ces sites devaient être protégés. La mission des Nations Unies devait prendre aussi des précautions. Et voilà, nous sommes en train de continuer à déplorer la mort de la population civile.
De son côté, l'armée rassure qu'elle est à pied d'œuvre pour mettre fin à ces bavures. Le lieutenant Gilles Ngongo révèle que des dispositions sont déjà prises pour parer à toute éventualité.
C'est inacceptable, comme nous l'avons toujours dit, les sites de déplacés sont inviolables et inattaquables. Nous avons activé les mécanismes des enquêtes judiciaires pour dénicher les auteurs de ces attaques pour qu'ils puissent répondre sur le plan opérationnel. La MONUSCO et les forces armées, nous avons mis en place les dispositifs de défense les plus robustes et tout autour de sites pour protéger et répondre à toute éventualité.
La milice Codeco a démenti jeudi 19 janvier son implication dans l'attaque armée perpétrée au site de déplacés à Savo, territoire des Djougou. Par ailleurs, des casques bleus de l'ONU ont découvert à Nyamamba et Mbongi, dans la province de l'Ituri, des fausses communes avec 49 civils morts, dont les femmes et des enfants, indique la MONUSCO sur son compte Twitter. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.7 à Kisangani.
Au Gabon, l'unité de l'opposition vole en éclat à la veille du renouvellement de l'organe central des élections à venir. Elle peine à s'accorder sur le profil de ses quatre représentants au sein de la commission ad hoc chargée d'examiner les candidatures aux différents postes du Centre gabonais des élections. Pas plus qu'elle ne s'entend sur la composition du futur Centre gabonais des élections CGE. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze.
Les premiers coups de griffe contre la configuration même du bureau du Centre gabonais des élections viennent de Paulette Missambo, président de l'Union nationale, parti membre de l'opposition.
Dans cette composition, nous avons des représentants des ministères qui interviennent, alors que normalement, ils ne devaient avoir qu'un rôle technique. Donc, il y a nécessité de rétablir l'équilibre entre la majorité et l'opposition.
Ancien candidat indépendant à l'élection présidentielle de 2016, Gérard Elanguema va plus loin. Pour lui, la sincérité des prochains scrutins passe par un centre des élections sous la conduite de l'Église catholique.
Les politiciens comme les magistrats sont facilement corruptibles. Si c'est vraiment la transparence que nous recherchons, nous proposons que le CGE soit confié à Mgr Ibaba.
Maître Luc Gaston Maïla, de la plateforme politique de l'opposition PG41, ironise cette proposition tout en restant ouvert à la discussion.
Si on veut être républicain, on saura qu'il y a la gestion des âmes et la gestion des hommes. Nous sommes là dans la gestion des hommes. Si maintenant on veut une incursion des religieux dans le débat politique, pourquoi pas? Je crois que si cette proposition devrait prospérer, il faut encore en débattre.
La PG41 est un regroupement de 41 partis politiques de l'opposition. À tort ou à raison, elle est accusée par certains de jouer le jeu du pouvoir dans le processus de renouvellement du Centre gabonais des élections. Étienne Francky Mbaondov, vice-président du parti Réagir et membre de la plateforme Alternance 2023.
Certains partis de la PG41 ayant activement participé à la mise en place de la plateforme Alternance 2023 violent délibérément les engagements souscrits sous le feu des projecteurs en initiant une démarche unilatérale en vue du renouvellement du bureau du CGE.
Pour le gouvernement, pas question de sursoir à la mise en place du Centre gabonais des élections, malgré les atermoiements de l'opposition. Lambert Noël Mata, ministre gabonais de l'Intérieur.
On attend ce renouvellement depuis 2 ans. On ne va pas jouer les prolongations. Là, il y a une case de la Cour. Mais au cas de la Cour concerne le pas, nous devons renouveler le bureau CGE dont le mandat est arrivé à expiration depuis plusieurs mois déjà.
À un peu plus de 6 mois des élections présidentielles, législatives et municipales du Gabon, la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections attendue pour cette fin du mois sera précédée par l'opération de révision des listes électorales d'après le gouvernement. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, il n'y a pas assez d'infrastructures scolaires alors que le système éducatif tchadien est placé parmi les secteurs prioritaires du gouvernement. Pays pétrolier, il a fallu que le gouvernement signe des partenariats avec des institutions internationales pour que des services sociaux de base soient construits au bénéfice de la population réfugiée et autochtone du département de la Niapende, province du Logon oriental, où l'exploitation du pétrole a commencé depuis 2003. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
L'école de Bendama, située dans le village Timbiri, sous-préfecture de Gorée rurale, bénéficie du projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil. Elle fait partie des 5 établissements construits et équipés de tables et manuels scolaires. C'est l'une des 23 institutions scolaires du secteur d'animation pédagogique de Timbiri, dont la plupart fonctionnent sous les hangars et gérés par seulement 5 enseignants formés et affectés par l'État. Créée le 1er octobre 1981, cette école communautaire de Bendama a été officialisée 5 ans après par les autorités en charge de l'éducation nationale.
Et en 81, je construisais un mur et j'utilise le charbon, les piles, tout juste pour noircir le tableau. Les craies coûtent 2 à 5 francs. C'est comme ça que je vais débuter l'école. Et c'est en 2014 que je me suis retiré.
Gustave Ndoujadoum est le fondateur de l'école de Bendama. À entendre le chef du village Morongar Charles, Bendama compte plus de 3600 habitants, mais il n'y a aucun indice de développement.
Nous sommes dans la zone pétrolière. Voilà, le pipe est passé dans mon territoire, mais nul, nous n'avons rien réussi. Seulement que par cas, il vient de nouveau avec une école très magnifique. Là. Le 5%, il n'a rien fait ici dans Bendama. On a envoyé beaucoup de demandes pour la construction, mais jamais. Au potable, il n'y en a pas.
Par manque d'enseignants qualifiés, le directeur de l'école de Bendama, Philippe Ndogonoudi, est obligé de prendre la grève.
Les enseignants formés affectés par l'État, je suis le seul. Il y a un seul instructeur en instance d'intégration qui m'appuie et puis il y a un maître communautaire de niveau 2. Les autres enseignants sont des maîtres communautaires de niveau zéro. Ils n'ont pas reçu une formation pédagogique quelque part.
Chérubin Tarmadil fait partie de ces maîtres communautaires sans formation pédagogique. Marié, père de 3 enfants, il enseigne aux élèves du cours préparatoire depuis 5 ans.
Avec le joli bâtiment, là, on est content et ça va tirer les voisins de venir et les enfants ici. Avant, là, on fait sous le soco. Par exemple, même comme ça, pour nous donner pour le savoir seulement. Par avant, on donne un truc de 5 000 comme ça. Et cette fois-ci, on nous donne 10 000 par mois. On a oublié de prendre l'argent parce que si c'est autre enseignant qui vient là, il veut absolument la montagne qu'il veut. Mais comme nous, on est de même village là, on ne peut pas laisser les enfants comme ça. Parce que parmi les enfants, il y a des ministres, il y a des sages-femmes, il y a des gouverneurs sont là.
Ces nouvelles écoles au cycle complet, construites et équipées dans 5 villages du département de la Niapende sur financement de la Banque mondiale, ont une capacité d'accueil de 1 500 élèves à raison de 50 élèves par classe, dont la majorité devrait être des filles. Il a été également prévu la prise en charge de 40 maîtres communautaires et autres inspecteurs pédagogiques pour pallier au manque cruel d'enseignants. Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Rachid Perdev, l'éducation peut conduire à la prospérité de la nouvelle génération et donc il est d'une nécessité absolue de soutenir les efforts du Tchad à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. André Kodumadingar, de retour de Bendama pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, malgré la baisse annoncée des prix du loyer et des denrées de première nécessité, la vie est toujours aussi rude pour les Sénégalais. Beaucoup d'entre eux estiment que le train de vie et les nombreux détournements soulignés par les organes de contrôle en sont la cause, alors que d'autres pensent que les centaines de milliards investis en très peu de temps dans certains projets auraient pu atténuer la pauvreté. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Le 5 novembre 2022, le président de la République annonçait une baisse des prix des denrées de première nécessité et ceux du loyer. Quelques semaines après le début de leur application, des Sénégalais jugent les mesures sans impact réel. Nous sommes à Guédiouaï, dans la banlieue de Dakar, devant une petite boutique près d'un terrain de football. Serigne Ndiaye porte une bouteille de gaz tout en râlant contre les prix.
On se sent pas trop dans cette baisse parce que des baisses de 15 francs, de 10 francs, ça n'impacte rien à notre pouvoir d'achat. Parce que vraiment, si tu vas à la boutique et tu leur dis de te vendre, par exemple, du gaz, ils te disent 2 900 et pourtant, les prix ont baissé. Mais le problème en est que tu ne peux pas leur réclamer une monnaie de 15 francs. C'est insignifiant quand même.
Pour les locataires, la baisse annoncée du loyer est également problématique car certains bailleurs ont anticipé en procédant à une hausse pour contrecarrer les mesures visant à diminuer le loyer. Papka estime que cette situation leur cause beaucoup de problèmes.
Que l'État du Sénégal a dit qu'il va diminuer les locataires, mais c'est devenu plus difficile parce que les bailleurs ont augmenté tous les prix. Et en ce moment, c'est plus difficile qu'avant. Parce que actuellement, on fait que ce repas, et voilà, c'est plus que difficile. Que voilà, c'est comme ça, quoi. Je ne trouve pas les mots parce que c'est difficile.
Tout comme ce père de famille, ému et désemparé, qui a laissé couler quelques larmes devant sa femme et ses enfants, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Pour leur venir en aide, plusieurs associations ont vu le jour. Hassan Lo, membre d'une de ces structures, détaille les aides qu'il donne.
Il y avait des denrées, il y avait un pacte qui constituait de poulet, oignons, pommes de terre, huile, riz. Il y a aussi un programme de financement, liquidité, argent. On dirait que tout le monde a besoin d'aide dans ce pays. Quand tu sors un programme de financement, tout le monde vient à ton encontre pour solliciter des aides. Tout le monde. Tu ne peux même pas satisfaire. Tu ne peux même pas tous les satisfaire.
Baisse insignifiante, mesures non respectées et surtout pouvoir d'achat très faible. À Dakar, les mesures pour diminuer les denrées de première nécessité et les coûts du loyer semblent avoir très peu d'impact sur le quotidien des habitants, alors que le pays se dirige vers le mois de Ramadan, pendant lequel les prix sont souvent à la hausse. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Fatouma Alimas Kalala a aussi assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction, au micro, Eric Maniakidza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com, sans oublier vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.